On retrouve Mickaël Ponge pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Mickaël.
Bonjour Marion, il est 9h10 à Port-au-Prince. L'insécurité, les élections, voilà les deux grands chantiers d'Ariel Henry, le nouveau Premier ministre haïtien en exercice, premier jour de mandat de plein pouvoir ce mercredi au lendemain de son installation dans le fauteuil. On va y revenir, nous serons aussi à Cap-Haïtien et sa région qui se prépare pour les funérailles de Jovenel Moïse. On vous emmène également aujourd'hui encore en Colombie, après le retour des manifestants hier dans les rues de plusieurs villes, au Pérou, où le nouveau président Castillo appelle aux bonnes volontés. Et puis dans le journal de la première avec vous, Tessa Gromain. On sera en Guyane. Un rapport sur l'orpaillage clandestin est remis aujourd'hui au gouvernement.
Oui, un rapport parlementaire, Mickaël, qui avance des solutions pour lutter contre l'extraction illégale de l'or dans la forêt amazonienne.
On en parle tout à l'heure, Tessa, et bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Plus jamais nous devons revivre un tel drame. Avec ces mots prononcés hier après-midi à Port-au-Prince, Ariel Henry, le nouveau Premier ministre du pays, a profité de sa cérémonie d'installation pour rendre hommage à Jovenel Moïse, le président haïtien assassiné le 7 juillet dernier. Un drame après lequel il faut se rassembler.
Le temps est à l'unité et à la stabilité. Je demande au peuple haïtien de continuer à démontrer sa maturité politique en maintenant un climat calme et serein à travers le pays.
Elle l'appelle à l'unité et à la sérénité d'Ariel Henry. Avec une qualité sonore toute relative, on s'en excuse par avance. Bonjour Romain Lemarécier.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Quelle réaction dans la presse après cette cérémonie ?
C'est un nouveau chef du gouvernement dans un pays sans chef d'État, meurtri et en deuil après l'assassinat de son président, détaille le Nouvelliste. Un Premier ministre qui se donne pour priorité la poursuite de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, la lutte contre l'insécurité, l'organisation des élections, la relance de l'économie, la lutte contre le Covid-19, entre autres. Pour Ariel Henry, la solution à la crise haïtienne doit venir des Haïtiens, comme il l'a expliqué lors de sa prise de fonction. Pour le quotidien Le National, ce nouveau gouvernement représente le grand recyclage. Le National fait la référence à la composition de l'équipe qui entoure Ariel Henry, un gouvernement composé en majorité d'anciens hauts dignitaires et cadres de l'État haïtien. C'est donc un constat d'échec pour Le National, pour qui Ariel Henry n'a pas pu apporter l'émergence de nouveaux dirigeants, tels qu'espérés par une grande partie de la population.
Et c'est en tout cas avec cette équipe de 18 ministres qu'Ariel Henry se donne divers mission écoutée. Étendez bien l'oreille encore une fois, le son n'est pas très bon.
L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque. Nous allons nous atteler à créer un environnement sécuritaire, fiable et stable en vue de faciliter la reprise des activités politique en toute sérénité à travers le pays et de favoriser une participation massive, la plus élevée possible, des citoyennes et des citoyens en âge de voter.
Le défi de la sécurité pour organiser des élections présidentielles et législatives dès cette année, telle que l'exige la communauté internationale, alors que la violence a redoublé depuis l'assassinat de Jovenel Moïse à Port-au-Prince, mais aussi en province comme au sud, à Jacmel. C'est en tout cas ce que certains vous ont raconté, Gina Lafontan.
Haïti, et notamment sa capitale Port-au-Prince, se trouve confronté à la violence des gangs armés qui terrorisent la population. Le phénomène a encore pris de l'ampleur depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est en tout cas ce que pense le révérend pasteur Franz Dougé.
Maintenant, l'insécurité augmente beaucoup plus en Haïti. 4 départements du Grand Sud sont bloqués et personne ne peut se rendre à Port-au-Prince. Les gangs imposent leurs lois, même si la police est là.
Dans le but d'endiguer l'insécurité, Jacques Jacquet, étudiant en sciences de l'éducation, verrait bien les autorités haïtiennes faire appel à des militaires étrangers, mais jusqu'à une certaine limite.
Si un autre pays veut nous aider à trouver une solution, je ne m'y opposerai pas. Mais on ne veut pas d'une force d'occupation.
Pour sa part, le professeur Franck Junior reste opposé à une quelconque intervention de forces étrangères sur le sol haïtien.
Certes, nous avons des problèmes d'insécurité. La police nationale est impuissante, la société haïtienne est malade, mais en dépit de tout, nous avons des réserves dans notre société, donc le débarquement d'une force étrangère ne serait pas bénéfique pour le pays.
L'insécurité en Haïti va constituer un chantier incontournable pour le nouveau Premier ministre Ariel Henry. Gina Lafontan, Jamel, RFI.
Pour l'heure, c'est sur l'enquête, hein, au sujet de la mort de Jovenel Moïse, en tout cas, que se concentre la police nationale haïtienne. Son chef, Léon Charles, tenait hier une nouvelle conférence de presse.
Trois nouvelles arrestations qui effectuent. Il s'agit de deux policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et un autre citoyen qui est le Dominique Auvin.
Trois arrestations, Romain Lemareski, au sujet desquelles on a plus de précisions du côté de la presse.
Oui, trois ressortissants haïtiens, mais Léon Charles n'a pas précisé le rôle spécifique qu'ils auraient joué dans le complot, détaille le New York Times. Au total, 2 douzaines de personnes ont été appréhendées depuis le début de l'enquête, ce qui a conduit à 45 interrogatoires et 13 perquisitions, au cours desquelles les autorités ont découvert une 60aine d'armes à feu, dont certaines appartenaient à la police haïtienne. Alors, de nombreuses zones d'ombre persistent, les enquêteurs cherchent encore à savoir si les forces de l'ordre haïtiennes avaient été infiltrées, et elle se pose également la question de savoir comment le commando qui a tué Jovenel Moïse a pu si facilement accéder à la résidence du président.
Cap haïtien, 100.5 FM.
Cap haïtien au nord du pays qui accueillera les funérailles nationales de Jovenel Moïse vendredi. Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Des funérailles qui se préparent et même d'une certaine façon, commencent aujourd'hui.
Oui, dès aujourd'hui, les stations de radio sont invitées à jouer uniquement des musiques de circonstance. La vente d'alcool est interdite, les boîtes de nuit sont fermées. Des registres de condoléances vont être ouverts dans quelques minutes maintenant, comme me l'expliquait Charles-Philippe Bernoville. C'est le responsable de la communication de la mairie de Cap-Haïtien.
À partir de 10h du matin, il va y avoir un registre ou des registres de condoléances dans les 19 mairies du département du Nord où les différentes populations, les différentes communes pouvoir justement présenter leurs condoléances à la famille Moïse et au défunt président.
Oui, et donc Cap-Haïtien, ce livre restera ouvert, ce registre de condoléances jusqu'à 18h, jusqu'à 6h de l'après-midi.
Et des jours. Les journées, pardon, on va y arriver, de jeudi et vendredi, Marie seront chômées.
Oui, école, commerce, administration fermée. Jeudi, une messe dite patriotique sera chantée en la cathédrale de Cap-Haïtien, suivie d'une marche et d'une veillée. Ceci avant les funérailles nationales vendredi dans la localité dite de Village SOS, dans une résidence privée de la famille Moïse.
C'est dans cette localité qu'habitait le père du défunt président. On ne va pas venir dans les rues du Cap-Haïtien. Tout se passera au niveau de cette localité-là. Et c'est là justement qu'on est en train de faire les préparatifs nécessaires. Il y a la famille et Moïse également, dont la femme du défunt président, qui a pris certaines responsabilités et qui attend tout le monde là-bas.
Alors, on apprend dans le National qu'un podium est en construction. Des tentes sont en train d'être installées pour permettre aux délégations de participer à la cérémonie. Dans un communiqué, la veuve du président, Martine Moïse, se dit aussi très touchée des marques de sympathie reçues ces derniers jours. Elle souligne aussi que la famille présidentielle souhaite prendre à sa seule charge les dépenses liées aux funérailles, ne pas reposer sur le trésor public haïtien, ce qui n'enlève rien au caractère officiel et national de ces funérailles.
Et avant tout cela, Marie, Cap-Haïtien en quelque sorte se fait belle. Hein, des travaux d'assainissement sont en cours.
Oui, c'est ce que précise la mairie de Cap-Haïtien. Les services de la voirie s'activent pour redonner un coup de frais aux principales artères de la ville. Chaque habitant est invité à nettoyer, voire à repeindre la façade de sa maison. Et Cap-Haïtien se prépare à accueillir beaucoup de monde, soutient Charles-Philippe Bernoville. Et certaines délégations sont déjà arrivées.
En ce qui a trait aux hôtels de la ville du Cap-Haïtien, ils sont tous remplis. Il y a des membres du gouvernement sortants qui sont déjà dans la ville du Cap-Haïtien. Des membres du corps diplomatique, il y a des ambassadeurs et des consuls et qui sont là. Et puis, il y a des membres de la Fédération haïtienne des maires, il y a des membres du Parti et PHTK qui sont là également, qui sont arrivés de Port-au-Prince. Puis bon, il y a les amis du défunt président qui viennent de partout. Il y a des membres de la diaspora haïtienne également qui sont déjà arrivés.
Et la mairie de Cap-Haïtien soutient que la commission départementale de circonstances qui organise ces funérailles nationales avec la famille Moïse est en train de prendre certaines mesures, Michael, en lien avec la direction départementale de la police nationale pour assurer la sécurité de ces obsèques.
On a demandé à la population de collaborer avec la police nationale d'Haïti pour pouvoir justement garantir la sécurité publique, et non seulement dans la ville du Cap-Haïtien, mais également dans la région nord et du pays. Je pense que et ceux qui vont venir participer aux funérailles nationales du défunt président et M. Jovenel Moïse, ils n'auront pas vraiment à s'inquiéter pour leur sécurité. On est en train de prendre des dispositions nécessaires.
Charles-Philippe Bernoville de la mairie de Cap-Haïtien que vous avez interrogé, Marie Normand, merci. Et nous vous proposerons bien sûr vendredi une édition spéciale hein, du rendez-vous d'Haïti et des Amériques à l'occasion de ces funérailles.
RFI, las voces del mundo.
Ambiance de manifestation qui nous emmène à présent en Colombie. Romain Lemaresqui, on en parlait déjà ensemble hier. La population était appelée à réinvestir les rues pour protester contre le gouvernement Duque, réclamer aussi de la justice sociale et dénoncer toujours les violences qui ont émaillé le mouvement de colère qui a éclaté maintenant il y a 3 mois.
Oui, des manifestations qui se tenaient le jour de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. Alors si les autorités craignaient des débordements et des violences, finalement la journée a été plus calme qu'annoncée, précisaient les spectateurs, sauf dans certaines localités du pays et dans certains quartiers de Bogota. La maire de la capitale a d'ailleurs tenu à remercier les organisateurs pour leurs efforts afin d'éviter toute confrontation avec les forces de l'ordre. Des manifestations pour la plupart pacifiques et qui, selon le quotidien, préfigure d'un changement pour la suite du mouvement qui devrait prendre une dynamique politico-électorale, détaillait les spectateurs. Au total, hier, 195 manifestations ont été répertoriées dans 95 localités, détaille le site d'information InfoAB. Le bilan des autorités fait état de 22 arrestations. 21 membres des forces de l'ordre ont été blessés.
Ces manifestations, hier, mardi, Romain, jour de la nouvelle session parlementaire, jour aussi de la fête de l'indépendance en Colombie. À cette occasion, le discours du président Duque était très attendu.
Oui, un discours qui se voulait optimiste, hein, selon le quotidien de Cartagena El Universal. Iván Duque, conscient que la Colombie a connu des jours meilleurs, a appelé ses compatriotes à dépasser la polarisation et les invite à respecter les symboles de la nation ainsi que son histoire. S'il n'a pas hésité à aborder les réussites de son gouvernement, notamment la campagne de vaccination qui, selon lui, va plus vite que les prévisions, il n'a pas hésité à aborder les thèmes qui mobilisent les Colombiens, l'éducation, la justice sociale, les violences policières notamment. L'éditorialiste Del Tiempo, proche du gouvernement, salue un discours inclusif, même si, comme le détaillait l'Universal, Iván Duque n'a pris aucun engagement.
Nouveau président du Pérou, lui, ne prendra ses fonctions que la semaine prochaine. Pedro Castillo, au lendemain de l'annonce de la victoire du candidat de la gauche, le Pérou, eh bien, maintenant attend, Romain, de savoir qui dirigera à ses côtés.
Et Pedro Castillo a lancé justement hier un appel, je cite, à tous les spécialistes, les personnes les plus qualifiées et les plus engagées pour le pays, afin qu'elles prennent part à son futur gouvernement. Selon le nouveau président, de nombreuses personnes souhaitent le suivre, parmi lesquels des politiciens d'autres formations que la sienne, détaille Pedro Castillo. Mais les craintes quant à sa gestion des affaires sont bien réelles, comme en témoigne l'éditorialiste Del Comercio, pour qui le socialisme que fait miroiter Pedro Castillo à ses compatriotes n'est qu'une recette qui mène à l'échec. Il cite en exemple Cuba, un éditorialiste qui exprime également ses craintes quant aux dérives de ce type de régime. Il parle notamment de l'autoritarisme et du peu de respect pour les institutions.
Ouais, ces craintes, Romain, de nombreux Péruviens les avaient anticipées, ce qui a notamment produit une fuite des capitaux avant même qu'on ne connaisse les résultats du second tour. Pedro Castillo doit donc maintenant rassurer, comme l'explique l'économiste péruvien Hugo Ñopo.
Beaucoup de gens avaient peur. Selon certaines estimations, la fuite des capitaux représenterait près de 6% du PIB, et ce, en l'espace de 6 semaines. C'est beaucoup d'argent. Pedro Castillo doit envoyer encore plus de signaux, notamment au sujet de celui qui sera son ministre de l'économie, son ministre de la production, de l'industrie, du travail. Ce sont des signaux que l'on attend et que Pedro Castillo doit dévoiler pour rassurer les marchés. Va-t-il respecter ses promesses de campagne ou va-t-il faire ce qui semble le plus raisonnable concernant l'économie avant la mise en place du socialisme ou du communisme qui existe aujourd'hui au Venezuela? Il y a eu une étape préliminaire, l'autoritarisme. Au Pérou, heureusement, le Congrès est aux mains de l'opposition, ce qui va obliger le gouvernement à trouver des points d'équilibre entre l'État et les besoins évidents, par exemple, d'une entreprise privée. Ils vont devoir trouver un nouvel équilibre.
Ah. L'économiste péruvien Hugo Gnoppo. Enfin, Romain, on termine avec un mot du scandale Pegasus, du nom de ce logiciel israélien utilisé pour espionner des dirigeants politiques, militants, journalistes. La fait toujours la une au Mexique.
Et pour cause, puisque ce pays est celui qui a le plus utilisé ce logiciel selon l'enquête internationale menée par une quinzaine de médias dans le monde. L'entourage du président mexicain Andrés Manuel López Obrador a été particulièrement visé, selon Aristegui Noticias, site d'information mexicain. Une honte, une preuve irréfutable que la présidence précédente était autoritaire, selon Andrés Manuel López Obrador. Si le président mexicain explique ne pas souhaiter porter plainte, car selon lui, il a toujours été espionné, il compte découvrir d'où provenait l'argent utilisé pour acheter ce logiciel. Andrés Manuel López Obrador s'est également engagé à ce que son gouvernement ne fasse pas appel à ce type de technologie.
Romain Lemaresquier, la presse, merci. Une fois n'est pas coutume, avant de retrouver nos confrères de la première, on parle basket avec ce sacre incroyable hier des Bucks de Milwaukee après avoir été menés 2-0 dans la phase finale du championnat de NBA. Ils sont parvenus hier à inverser la tendance en gagnant face aux Suns de Phoenix, Frédéric Suto.
50, c'est le chiffre de cette finale. 50 comme le nombre d'années qui séparaient la franchise du titre NBA. Jusque-là, le seul titre conquis par Milwaukee remontait à 1971, quand le club était emmené par Lev Alcindor, qui allait changer de nom au lendemain du sacre pour devenir le légendaire Karim Abdul-Jabbar. 50 années de disette, il a fallu attendre l'arrivée d'un autre monstre sacré du jeu pour que les Bucks retrouvent les sommets. Giannis Antetokounmpo, le grec d'origine nigériane. Il a posé ses au bord du lac Michigan en 2013, à 18 ans, un diamant brut de 2,11 m et 110 kg. Il a épuré son jeu en 2019 et 2020. Il était désigné meilleur joueur NBA de la saison régulière. Le voilà avec le trophée dans les bras dans cette finale face aux Suns de Phoenix, pour qui la malédiction continue. Aucun titre et une nouvelle finale perdue après celle de 1976 et 93. Dans cette finale, Giannis Antetokounmpo s'est occupé de tout ou presque dans le match de la gagne, remportée par les Bucks 105 à 98. Il a été époustouflant. Il a inscrit, cela ne s'invente pas, 50 points.
Et voilà, comme promis, Tessa Groman, le journal de la première. On est en Guyane après 4 mois de travaux. La commission d'enquête sur la lutte contre l'orpaillage illégal rend son rapport aujourd'hui.
L'extraction illégale de l'or provoque des dégâts sociaux et environnementaux lourds en Guyane, comme par exemple l'empoisonnement au mercure des populations du Haut-Maroni. L'enquête menée par 28 parlementaires a abouti à un certain nombre de propositions qui seront soumises aujourd'hui au gouvernement. La première, transformer l'Observatoire des activités minières basé à Cayenne en autorité administrative indépendante. Céline Fleuzin.
L'objectif est clair, être proche des acteurs luttant contre l'orpaillage illégal pour avoir une meilleure force de frappe. Autre proposition, le réajustement de la politique de lutte contre l'orpaillage clandestin. L'État a certes mené des actions, mais pas forcément adaptées, selon les membres de la commission. Autre point, aucun angle mort ne doit venir fragiliser la lutte contre l'orpaillage illégal. C'est pour cela que chaque objectif doit être chiffré, toujours selon la commission. Plus qu'à attendre maintenant de savoir ce que le gouvernement pense du rapport.
L'épidémie de Covid repart à la hausse en Guadeloupe. Le taux d'incidence est passé au-delà du seuil de vigilance à plus de 74 cas pour 100 000 habitants contre 47 la semaine passée. Le point avec Pascal Pétrine, Guadeloupe, la première.
281 contre 178 la semaine dernière, c'est le nombre de nouveaux cas de Covid enregistrés cette semaine, ce qui confirme que le virus circule bel et bien sur notre territoire. Et plus inquiétant, sous différentes formes de variants, 4 nouveaux clusters ont été détectés dans des milieux variés, 2 en milieu professionnel, 1 dans un établissement de santé et 1 en milieu familial. Cette hausse des cas de Covid n'a pas encore de répercussions sur la pression hospitalière. Cette semaine, 2 hommes sont décédés au CHU avec une moyenne d'âge de 73 ans.
Outre le pass sanitaire, le port du masque est à nouveau obligatoire en Guadeloupe, en extérieur, entre 8h et 23h. En Martinique, l'association Coup de Pouce, basée à Fort-de-France, propose des stages en informatique à des personnes qui n'y connaissent rien. Une vingtaine de femmes âgées de 50 à 60 ans ont suivi la formation, Jean-Baptiste Anatole.
La plupart n'avaient jamais touché à un ordinateur. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus s'en passer.
Très heureuse. Chaque mardi, je me suis présentée ici avec joie et je suis heureuse d'avoir participé à cette formation.
Et maintenant, vous passez votre temps à chauffer ?
Ah oui, surtout sur la couture, sur la cuisine.
On sort de ça dans 20 secondes. Merci, au revoir.
Pouce pense déjà à une seconde édition.
Et on sera bon pour 29h30.
Présidente de l'association Coup de Pouce.
70% des dames ne savaient même pas où se trouvait le bouton manche à arrêt d'un ordinateur, ne savaient même pas c'était quoi une souris.
10 mois de formation ont été nécessaires. Elles ont reçu hier matin leur diplôme.
Nous voilà un reportage de Jean-Baptiste Anatole, Martinique, la première.
Merci beaucoup Tessa Gromane à vous et aux équipes de la première. À demain.